On va lire juste un verset qui est peut-être un des plus connus de ce psaume, le psaume 119, à partir du verset 9. Avant de pouvoir lire ce psaume et de rentrer vraiment dans le texte, je voudrais insister sur le fait que des fois dans les églises, on entend comme des légendes de certaines choses qu'on prend pour des vérités bibliques qui ne sont pas des vérités bibliques. Et l'une d'entre elles qu'on entend parfois, c'est que quand on devient croyant, quand on devient chrétien, on ne peut plus pécher. Notre nature est tellement nouvelle, on devient quelqu'un, un enfant de Dieu, alors on n'a plus la capacité de pécher. On sait très bien que c'est pas vrai. Parce qu'il suffit de réfléchir quelques secondes pour le réaliser, qu'on a tous, à un moment donné, on s'est tous fourvoyés, on s'est tous plantés, on a tous chuté sur le chemin de la foi. Et le problème de cette légende que parfois on peut voir dans le cœur de certains qui se croient invulnérables, qui pensent avoir l'immunité d'un point de vue spirituel, c'est que ça nous place dans une position dangereuse d'orgueil. Ça nous place dans une position d'arrogance. Et on risque de se faire rattraper très rapidement par la réalité et de pas comprendre ce qui nous arrive. C'est souvent le cas quand on est jeune chrétien, quand on est bouillant et qu'on pense que toute notre vie a été transformée, qu'il n'y a plus aucune trace de péché en nous. Oui, mais on est avec un corps et qui est encore... La chair est encore présente, le vieil homme, il est toujours présent. Et c'est un effort de tous les instants que de le mettre à mort, comme nous le dit la parole. Faites mourir ce qui est dans vos corps est terrestre. C'est quelque chose que l'on doit faire continuellement. Et parfois, c'est l'extrême opposé qui est là comme une légende. Que même si on est croyant, ben on peut tolérer des péchés dans notre vie, parce qu'après tout, on ne sera jamais parfait. Donc, c'est pas grave si on a un péché dans notre vie. Vous avez déjà entendu ce genre de raisonnement ? Des fois, on l'entend pas, mais on le voit. Parce qu'on voit des gens qui, pendant des années et des années, ils ont un péché qui est là manifeste, et ils le tolèrent. Et ils le gardent. Et le problème de cela, c'est quoi ? C'est que si on veut progresser avec Dieu, eh bien, on ne peut pas le faire. Parce qu'on est paralysé. Le péché est semblable à une chaîne qui nous tire vers l'arrière. Et si on volontairement choisit de demeurer dans un péché alors qu'on a fait la paix avec Dieu, alors qu'on a accepté qu'il pardonne tous nos péchés antérieurs, mais qu'on continue avec un, eh bien, on pourra pas aller plus loin. Et le Seigneur nous invite à trouver en lui le secours dont nous avons besoin. Ces genres de légendes-là ne viennent pas de Dieu, mais la parole de Dieu, elle est là pour nous montrer quelle est la vérité. Elle est là pour nous montrer le plan que Dieu il a pour nous. Dieu veut que par la foi, il ne dit pas que par la foi on ne peut plus pécher, il nous dit qu'on peut ne plus pécher. Vous voyez la subtilité ? On a la capacité de résister au péché maintenant, ce qu'on n'avait pas auparavant. Auparavant, la tentation se présentait, ben on réfléchissait même pas. On y allait en plein dedans. Maintenant, les yeux de notre cœur sont ouverts et nous avons cette capacité. Dieu nous la donne à chaque fois. Et j'avais cette image de comme s'il y avait deux portes qui sont là. D'un côté, il y a le mal. De l'autre côté, il y a le bien. La porte du mal, c'est même pas une porte, c'est juste un rideau. On peut y passer facilement. La porte du bien, par contre, elle est bien solide. Elle est fermée avec une clé. Et c'est difficile. Alors, quand on est jeune croyant, on croit qu'on va pouvoir tout traverser, on croit qu'on peut faire le bien, donc on défonce la porte. Et la première porte, ça va, on y arrive parce qu'on est plein de force, mais à force de la deuxième, la troisième, on commence à fatiguer. Et puis, à un moment donné, on se retrouve vraiment face à une porte, même si c'est le bien, mais c'est une porte qui est costaud. Et on se fait mal. Et on se prend la porte en pleine figure. Alors que le Seigneur Jésus, il est là à côté de nous, avec la clé. Il nous dit, mais qu'est-ce que tu attends? C'est moi qui est là. C'est moi qui peux te donner la solution pour faire le bien dans ta vie. Et le Seigneur nous invite à regarder et nous donne trois moyens afin que nous ne péchions plus. Et c'est ce qu'il est dit dans ce passage, dans Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi faire ? Afin de ne pas pécher contre toi. Il y a en la parole de Dieu, il y a dans la présence de Dieu, la capacité, la force dont nous avons besoin pour tenir bon malgré le péché qui est là, qui voudrait nous submerger. Le Seigneur nous donne une vie nouvelle, oui, mais il nous donne aussi une capacité pour résister au péché. Et le premier de ces moyens que nous trouvons, c'est la parole de Dieu. Et puis, c'est pas juste la parole de Dieu de la connaître, d'avoir une Bible dans notre voiture. Des fois, on voit des gens qui ont la Bible dans leur voiture, ils pensent qu'ils vont pas avoir d'accident comme ça. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas dans notre voiture qu'il faut qu'elle soit la parole de Dieu. C'est où? C'est ce qu'il est dit dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Comment est-ce que nous pouvons rendre pur notre sentier? Ça veut dire déjà que le but de Dieu dans notre vie, c'est que notre sentier soit pur. Dieu ne veut pas qu'on tolère des choses qui ne doivent pas être là. Dieu veut que nous marchions dans la pureté. Bien sûr que c'est quelque chose de progressif. Bien sûr que c'est quelque chose d'étonnant quand on réalise comment Dieu a pu nous aimer alors qu'on avait un cœur. Même quand on s'est converti, notre cœur il n'était pas parfait. Au loin de là, on a réalisé notre péché. Mais Dieu il voyait tous les autres péchés qu'on allait faire par la suite. Et il nous aime quand même. Vous avez déjà réalisé ça? Que Dieu il nous aime en voyant toute la noirceur de notre cœur. Et il pourrait nous dire, nous accuser en nous disant, tu es mauvais, oui, tu as fait le mal, mais regarde tout le mal que tu vas encore faire. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il nous voit avec les yeux de l'amour qui sont capables de discerner ce qui est bon, ce qui va résulter de bon dans notre vie si on laisse sa parole être serrée dans notre cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui est là que nous devons faire, serrer la parole de Dieu dans notre cœur. On voit bien dans ce passage que s'il s'agit juste pas de lire la Bible, il s'agit d'avoir vraiment un état d'esprit envers la parole de Dieu où on accepte d'être dirigé par elle, en se dirigeant d'après ta parole. Littéralement, ça veut dire en la gardant, en veillant dessus, en s'y conformant, mais en lui donnant la place qu'elle mérite dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens faibles qui pêchent? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui retombent continuellement dans leur ancien travers? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Il y a des statistiques aux États-Unis, je lisais, où vraiment un très faible pourcentage de chrétiens lisent vraiment la Bible dans la semaine. Alors je ne sais pas si en France on est pareil, je ne connais pas les chiffres, mais moi ça m'intéresse pas à la limite de connaître les autres, je veux pour moi, est-ce que moi je lis la parole de Dieu? Oui, mais vous êtes pasteur, vous êtes obligé de la lire. Oui, mais c'est pas suffisant. Est-ce que je sers la parole de Dieu? Parce que je peux même prêcher la parole de Dieu, mais si je ne la sers pas dans mon cœur, ben ça sert à rien. Et le Seigneur nous invite chacun à réfléchir quelle est la place que je donne à la parole de Dieu. On est dans une époque aujourd'hui où tout est fait contre la parole de Dieu. Et de plus en plus, vous allez voir, je ne suis pas un prophète de mauvais augure, mais c'est la Bible qui le dit, que de plus en plus, ça va être difficile. Alors qu'on veut se conformer à la parole de Dieu, on voit que notre monde il va totalement à l'opposé. Mais nous, on veut rester là, tenir bon, être ferme. Pourquoi? Parce que quand on sert la parole de Dieu dans notre cœur, on a une force qui nous communiquer pour rester dans la pureté. Hier, je parlais avec une dame de 95 ans. C'est beau, hein, 95 ans. Elle en fait beaucoup moins, d'ailleurs. Elle me disait, elle était triste, elle me disait, oh, j'ai pas dormi la nuit dernière, c'était dur, difficile. Alors, vous savez ce que j'ai fait, pasteur? J'ai dit non, qu'est-ce que vous avez fait? Et j'imaginais, moi, qu'est-ce qu'on peut faire la nuit quand on n'arrive pas à dormir toute une nuit? Peut-être qu'on va aller regarder Chasse et Pêche à la télévision pour passer le temps. Vous savez ce qu'elle a fait, cette dame? Elle a dit, j'ai pris la Bible et j'ai écrit des dizaines de versets pour que ces choses repassent dans mon cœur. Parce que j'ai plus beaucoup de mémoire, mais quand j'écris la Bible, ça, je retiens mieux et ça me fait du bien. Et pendant toute la nuit, je me suis fait du bien après la parole de Dieu. Mes amis, je crois que ça, c'est serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et je crois que c'est vraiment un témoignage pour chacun d'entre nous. De quelle manière est-ce que nous serrons la parole de Dieu? Je te cherche de tout mon cœur, nous dit ce passage. Est-ce que nous avons ce désir ardent de chercher Dieu? Et particulièrement au travers de sa parole. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir une révélation, un ange qui nous apparaît pour nous expliquer combien Dieu il est grand? Ou est-ce que déjà simplement en lisant la parole de Dieu, on peut le voir? Au travers de ces histoires qui nous sont données, au travers de tous ces passages qui sont là et qui nous exhortent. Quelqu'un a dit dans sa prière, et que c'est un psaume qui le dit aussi, que par sa parole, Dieu est capable de nous guérir. On se rend pas compte, quand on lit la Bible, même de manière un petit peu routinière, comment ça peut faire du bien à notre cœur, comment ça peut réparer des choses qui sont là, des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont besoin de guérison intérieure, et des fois ils cherchent toutes sortes de moyens. Différent, c'est bien tous les moyens que l'on a autour de nous. Mais un des premiers moyens que Dieu nous donne, sa parole. Sa parole, elle est là pour nous guérir. De quelle manière est-ce qu'un fiancé, il lit la lettre de sa fiancée, qui est loin de lui, éloignée de milliers de kilomètres. Est-ce qu'il la lit une fois comme ça, et puis il a bazar de la lettre? Ou est-ce que c'est chaque mot est sous-pesé? En lisant, il s'imagine sa fiancée, il se réjouit du moment où il sera avec elle, et etc. De quelle manière est-ce que nous lisons la lettre d'amour que le Père nous a laissée pour que notre vie puisse être conforme à ce qu'il veut que nous soyons, et pour qu'un jour, surtout, nous puissions être réunis ensemble? Nous devons avoir ce désir ardent. Pourquoi? Parce que David l'explique bien dans ce psaume. Il dit « Je te cherche de tout mon cœur » au verset 10. « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Si on n'a pas cet amour ardent pour la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, peut-être insinueusement, on va être éloigné de la parole de Dieu. Et on se rendra même pas compte. Mais petit à petit, on va faire des choses, on va avoir des compromis dans notre vie, on va faire des choses qui sont contraires, et on se rendra même pas compte que c'est mal, parce qu'on s'éloigne petit à petit de la parole. Alors que le Seigneur est celui qui veut nous amener dans cette vie de pureté. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Peu importe les paroles que j'entends autour de moi, peu importe les conseils de ce monde qui sont là, qui résonnent, peu importe les murmures, les paroles mensongères de l'ennemi qui me susurrent à l'oreille certaines choses, je veux rejeter tout ça. Peu importe les raisonnements que je me fais moi-même, s'ils semblent tellement logiques, c'est bien les raisonnements, mais qu'est-ce que dit la parole? À un moment donné, Jésus a reproché à ses disciples, il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous raisonnez? Pourquoi est-ce que vous réfléchissez plus qu'il faut? Moi, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit traverser, c'était dans l'occasion de la tempête. Je vous ai dit traverser. Et des fois, on est là, on raisonne. Ouais, je sais, je suis bien placé, hein. J'ai fait des études scientifiques, souvent, je suis là dans le raisonnement. Mais c'est pas nos raisonnements qui nous amènent plus près de Dieu. C'est la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu qui nous amène à rentrer dans ce plan, ce chemin de vie, qui nous amène à faire des progrès, qui nous amène à vivre des expériences, qui nous amène à, dans ces moments où on se réjouit parce qu'on voit ce que Dieu fait. J'étais heureux hier soir, j'étais à la réunion de jeunesse à Montauban. Et dans peu d'instants, le Seigneur m'a donné des éléments de réjouissance, des expériences que certains ont fait, que ce matin je vais pouvoir vous raconter. Et je suis réjoui parce que j'ai vu que combien c'est bon quand on laisse le soin au Seigneur de nous exhorter, de nous faire du bien. Vous savez que les pasteurs, ils ont besoin aussi des fois d'être exhortés. Et le Seigneur, il a toujours, continuellement, jour après jour, il a des moments où il nous fait du bien, où il nous rappelle certaines choses, où il nous donne des témoignages au travers d'un frère, au travers d'une sœur qui nous remonte. En tout cas, ce que je voudrais insister ce matin vraiment, c'est sur cette réalité. Que si je sers la parole de Dieu, Dieu me donne la force de tenir bon. Comment est-ce que je peux être fort face à la tentation, face à la puissance du péché? Par la parole de Dieu. On va dans 1 Jean, première épître de Jean, c'est presque avant l'Apocalypse, donc c'est tout à la fin de la Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 1, on voit une deuxième raison, un deuxième moyen que Dieu nous donne afin que nous ne péchions point. 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, pourquoi ? Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Et nous pouvons dire doublement amen, parce que les nôtres en question, ceux qui sont concernés par nôtres, à l'époque c'était l'église à laquelle Jean s'adresse, c'était pas nous. Mais nous on est concernés par ceux du monde entier. Le Seigneur, il est devenu cet avocat pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et nous voyons bien dans ce passage qu'une des légendes dont je parlais tout à l'heure, elle n'est pas vraie. C'est-à-dire que des fois, ça nous arrive de pécher. C'est ce qu'il dit l'apôtre Jean, il sait très bien. Le plan de Dieu, c'est afin que l'on ne pêche point. Mais il dit, juste après, si quelqu'un a péché, tout de suite, rappelle-toi que tu as un avocat auprès du Père. Et ne reste pas plus longtemps dans cet état parce que tu es en train de prendre des mauvaises décisions. Quand je suis dans la culpabilité du péché, quand je suis dans l'aveuglement du péché, parfois je prends des décisions que je ne prendrais pas si je m'étais repenti et si j'avais laissé le soin à Dieu de conduire ma vie. Et c'est bien de réaliser ces choses, de réaliser que si ça m'arrive de pécher comme c'est écrit là, je veux tout de suite revenir au Seigneur. Tout de suite me raccorder avec mon Dieu, tout de suite faire la paix avec lui. Et tout de suite revenir dans ses voies, de peur de faire une bêtise, de peur de faire un acte que je vais regretter. Alors, Jean, il est en train de dire, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Quelles sont ces choses en question ? Eh bien, il suffit de remonter, hein, juste avant. C'est très, très, très simple, au verset 5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Des fois, on cite des bouts de versets et on croit que c'est suffisant pour que Dieu accomplisse les choses dans nos vies. On cite la fin de ce verset. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Est-ce que c'est vrai? Oui? Mais c'est vrai dans quel contexte? C'est vrai dans le contexte que si nous marchons dans la lumière, si j'accepte continuellement d'exposer ma vie à la lumière du Seigneur parce que j'ai compris, c'est ce que Jean est en train d'écrire à ces personnes, que Dieu est lumière. Quand Jean est en train d'écrire, s'il y avait une situation particulière dans cette église, c'est que il y avait des gens de l'église qui étaient partis et qui commençaient à avoir une vie un petit peu spéciale en disant le corps c'est quelque chose d'impur et l'esprit c'est quelque chose de pur. Donc dans mon corps je peux faire n'importe quoi, je peux pécher dans mon corps, c'est pas grave parce que ce qui compte c'est l'esprit. Et les gens ils avaient une grande foi en Dieu théorique et ils avaient une vie de patachon, pour dire les choses comme ça. Et Jean était obligé d'expliquer, oui, si on empêche, on a un avocat auprès du Père, mais le Seigneur est lumière, et si nous marchons dans la lumière, alors les choses progressivement sont en train de changer. Alors le Seigneur purifie notre corps, purifie notre cœur de plus en plus, et nous permet de faire des progrès avec lui. Quelle grâce de savoir que nous pouvons trouver en Dieu le pardon dont nous avons besoin. Si on confesse notre péché, c'est ce que va dire un prochain verset, si on confesse notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Regardez au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, donc c'est ce que je viens de dire, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'écoutais un pasteur qui prêchait là un enseignement et il racontait cette expérience qu'il avait faite. Il était en train de parler que parfois il y avait des personnes qui étaient tellement sous la culpabilité, tellement dans un temps de dépression, de déprime, dans une pensée noire, qu'il était obligé de leur expliquer que quand on est chrétien, ça nous arrive d'avoir des erreurs, ça nous arrive d'avoir des failles, qu'on n'est pas parfait. Et il y a quelqu'un qui s'est levé à ce moment-là dans la réunion. Vous imaginez là, ce matin, quelqu'un se levait un petit peu revendicatif et il disait « Non, c'est pas vrai, pasteur !» Je suis pas d'accord avec vous. Maintenant, en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Et ce monsieur, il pensait qu'il était parfait, donc. Alors, le pasteur, il voyait, il essayait d'argumenter avec lui. Puis, à un moment donné, il a trouvé l'argument merveilleux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, votre perception de ce verset de que vous êtes une nouvelle créature, c'est intéressant. Maintenant, on va savoir ce que pense votre épouse de cette réalité dans votre vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a fermé la bouche tout de suite et il s'est rassis. Parce que il avait la crainte que son épouse puisse dire « Ouais, mais dans ta vie, t'as ça et t'as ça qui va pas. » Et des fois, c'est bien, Dieu met des personnes à côté de nous, c'est nos épouses ou c'est des personnes dans l'église, un frère et une sœur, pour nous rappeler que on n'est pas si parfait que ça. Et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et qu'on a besoin de confesser notre péché. Une des marques les plus importantes de la maturité d'un chrétien, c'est pas qu'il prêche, c'est pas qu'il conduit les chants. Ça, c'est pas la maturité. Ça en fait partie, bien sûr. Mais une des marques les plus importantes, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui est capable de demander pardon. C'est dur de demander pardon. Ben, je vous le dis par expérience. Il y en a qui disent que pour eux, c'est facile. Moi, je dis que c'est un combat. Mais est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on laisse la parole de Dieu triompher dans notre vie en disant « Je te demande pardon, j'ai fait quelque chose de regrettable. » Et si on le fait, ben on est des personnes matures spirituellement. Et plaise à Dieu qu'on puisse grandir dans cette capacité à demander pardon, à confesser notre péché. Mais déjà, entraînons-nous quand c'est envers le Seigneur, quand personne nous voit, mais que c'est envers Dieu qu'on a péché. Mais faisons-le, confessons notre péché. Hier soir, justement, j'entendais ce témoignage d'un frère qui il racontait quand il avait une vingtaine d'années, il luttait avec un péché dans sa vie qui était là, qui était pesant. Et quand il allait dans les camps, quand il allait dans les colos, il recevait une bénédiction, il y avait la présence de Dieu. Alors il était dans un temps un peu euphorique, pendant plusieurs jours ça allait. Et puis petit à petit le péché reprenait la place. Et il recommettait ce péché continuellement et continuellement. Et le problème qui se passait pour lui, c'est qu'il se disait dans son cœur, il se disait « j'arrête quand je veux ». Je suis pas esclave, j'arrête quand je veux. Sauf que au fond de lui, il savait que c'était pas vrai. Avec le recul, il disait, au fond de moi, je savais que j'étais en train de me mentir à moi-même. Parce que dès l'instant où je dis que j'arrête quand je veux et que j'arrête pas, c'est que j'étais esclave. Et puis un jour, il a fait une chose toute simple. La parole de Dieu, dans une prédication, a touché son cœur. Et il a fait une chose toute simple. Il est rentré chez lui. Il s'est agenouillé devant son lit et il a prié son Dieu. Et il a dit, Seigneur, je te confesse mon péché. Seigneur, je te confesse que oui, je suis esclave. Seigneur, je te confesse que j'ai besoin de ta délivrance. Seigneur, je te confesse que j'en peux plus, je suis pas capable de triompher de cela, mais il y a que toi qui peux faire quelque chose. Et quand il a fait cette prière de confession devant Dieu, du jour au lendemain, il a été totalement délivré de cela. Dieu lui a donné la capacité de tenir bon face à la tentation. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de saisir le pardon de Dieu. Et quand on accepte de saisir le pardon de Dieu, c'est une de ces choses sur laquelle Jean il insiste. Quand on a l'habitude de connaître le pardon de Dieu dans notre vie, parce qu'on a confessé notre péché, alors Dieu nous donne une force pour tenir bon par rapport au péché. Et dans chapitre 2, verset 9, on voit un autre aspect de cette réalité. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, ou on pourrait dire qu'il est avec Dieu, et qui est son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Si j'ai un problème avec Pierre en janvier, si j'ai un problème avec Michel en février, si j'ai un problème avec Monsieur Dupont en avril, et si j'ai un problème avec le cousin de Monsieur Dupont en novembre, ça veut dire que pendant toute l'année, j'ai eu un problème avec Dieu. Je peux pas dire j'aime Dieu, je peux pas dire que j'ai une foi en Dieu incroyable et que avec mes frères ça passe pas. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème entre moi et Dieu à la base. C'est ce que nous dit la parole. Et si je dis j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère, la Bible dit catégoriquement, simplement, les mots sont très faciles à comprendre, je suis un menteur. De quelle manière, frères et sœurs, est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous nous aimons vraiment? Et là, Jean y précise un peu plus loin, je crois que c'est au chapitre 3, il dit, ça suffit pas juste en parole, mais en action. Et en vérité, parce que la manière dont j'aime mon frère et ma sœur en action et en vérité, ça montre la foi, l'amour que j'ai pour mon Seigneur, la communion que j'ai avec lui. Ça montre que la lumière du Seigneur, elle brille dans mon cœur, que son amour me remplit tellement qu'à un moment donné, il faut que ça s'exprime. Et c'est des choses qui sont là qui nous permettent de tenir bon. Vous avez vu, c'est écrit noir sur blanc, celui qui aime son frère, aucune occasion de chute n'est en lui. Ah, il va y avoir des occasions de chute à l'extérieur, parce qu'on est dans un monde compliqué, c'est sûr. Mais en lui, parce qu'il reste dans l'amour de Dieu, parce qu'il reste dans cette compassion pour celui qui est faible, parce qu'il voit son frère qui est malade et qui prie à la maison. Il se contente pas de prier, c'est bien quand on prie tous ensemble, mais à la maison, quand on est là tout seul. Tiens, je vais prier pour mon frère Daniel qui s'est approché tout à l'heure, ben je vais continuer à prier à la maison ce soir. Tiens, ma sœur qui est dans l'épreuve, je vais prier pour elle. Je vais lui passer un coup de fil, je vais aller la visiter. Celui qui aime son frère. Aucune occasion de chute n'est en lui. Il peut tenir bon face au péché, parce que le Seigneur est celui qui va le tenir. Vous voulez être fort? Vous voulez être puissant? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Oui, mais ça marche par le pardon de Dieu. L'expérimenter le pardon de Dieu, et ça marche par l'amour de Dieu aussi que je manifeste. Un dernier texte dans l'Exode au chapitre 20 et au verset 18. Troisième aspect, troisième moyen que Dieu nous donne pour tenir bon face au péché, pour que nos vies puissent grandir dans la sainteté. Juste après cet épisode où Dieu est en train de donner au peuple d'Israël les 10 commandements, et quand on considère les 10 commandements, on se rend compte qu'ils sont totalement valables encore aujourd'hui. Juste 10 commandements qui sont là, mais qui sont vraiment un cadre pour avoir une vie saine, droite devant Dieu. Au verset 18 du chapitre 20, regardez ce qu'il est dit. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Amen. Deux réactions face à ce spectacle incroyable. Les 10 commandements, les gens ont entendu les 10 commandements, la voix de Dieu, le tonnerre, ils ont vu la montagne en feu, c'était un spectacle incroyable. Pourtant, ils venaient de vivre des choses fabuleuses. Ils venaient de traverser la mer Rouge, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Mais là, devant ce spectacle de la présence de Dieu qui se manifeste de manière incroyable, ils étaient tous dans la peur. Sauf un. Il y a deux réactions face à la présence de Dieu qui se manifeste. Il y en a qui ont peur, il y en a qui craignent pour leur vie. Et puis, il y avait Moïse qui était là, qui lui, il semblait pas trop affolé. Au contraire, il savait que si Dieu se manifestait comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Moïse, il a expliqué les choses. Vous avez fait attention à ce qu'il a dit ? Il leur a dit bien, ne vous effrayez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Quand on met la crainte de l'Éternel devant nos yeux, alors le Seigneur nous donne la capacité de ne pas pécher. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. On voit bien la différence puisqu'il leur dit, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur de Dieu. Ce n'est pas la peur qu'il faut qu'il soit dans votre cœur. C'est la crainte, c'est le respect, c'est la révérence devant Dieu. La crainte de Dieu, c'est tout ça, cet honneur que l'on donne à Dieu, cet hommage, comme quand on est devant un monarque, une personnalité importante, il y a une espèce de crainte qui est là parce que c'est quelqu'un d'important. Quand on est devant une personnalité politique, on devrait être normalement dans une crainte respectueuse de la personne à cause de son autorité. Mais si Dieu dans notre vie, c'est la dernière roue du carrosse, si c'est la roue de secours, alors on va venir vers lui que quand on a besoin, que quand on a un problème, un pépin, quand on crève une roue. Et malheureusement, parfois dans la vie de certains chrétiens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu, c'est juste la roue de secours. On va vers lui, « Ah Seigneur, tu vois, j'ai ça qui m'est tombé dessus, Seigneur, viens me secourir. » Et on se contente de cette relation avec le Seigneur. Mais si Dieu est l'invité de Marc, si Dieu c'est le Alain Prost de la conduite de la vie, et qu'on doit l'accueillir dans notre voiture, on va lui dire, mais Seigneur, tu conduis tellement bien, il faut que ça soit toi qui soit au volant, ça soit pas moi. Fais ce que tu veux, amène-moi là où tu veux, Seigneur, mais reçois l'honneur qui te revient. Comprenez la différence entre la roue de secours et Alain Prost, c'est pas la même chose quand même. Et Dieu, pour nous, c'est Alain Prost qui veut nous conduire, alors peut-être pas à toute vitesse, mais en tout cas, il veut nous conduire à bon port, en toute sécurité, et simplement, il faut lui laisser l'opportunité de le faire dans notre vie. Il faut lui donner cette place qui lui revient. Que se passe-t-il quand on n'a pas la crainte de l'Éternel ? Que se passe-t-il quand on n'a pas la crainte de Dieu devant les yeux ? Quand on n'a pas ce cœur qui respecte Dieu ? Ben, dans le psaume 36, c'est le dernier texte qu'on lit ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Psaume 36, c'est exactement ce dont on vient de parler. Psaume 36, verset 1er. Verset 2, on va lire. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Et c'est quoi la conséquence d'une personne qui n'a pas la crainte de l'Éternel devant ses yeux ? Il se flatte à ses propres yeux. Ça veut dire qu'il croit qu'il est plus grand que ce qu'il est vraiment. Vous savez, quand on marche sur la pointe des pieds, là, quand on bombe le torse, tellement on pense qu'on est important. Mais ça veut dire aussi que quand on fait cette attitude-là, on minimise l'attitude réelle que Dieu devrait avoir dans notre vie. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui consomme son iniquité, ça veut dire quelqu'un qui laisse les propres désirs, ses pensées le diriger. Quelqu'un qui consomme son iniquité pour assouvir sa haine. Vous savez que des fois, on a des sentiments qui sont là dans notre vie, de la colère ou de la haine ou de la vengeance. C'est normal que ça nous traverse parce qu'on est humain. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, il continue. Il va jusqu'au bout de la vengeance. Ou il reste dans un état de bouderie. Au verset 4, les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Quelqu'un qui est capable de mentir et que ça lui fait plus rien. Alors qu'il est au Seigneur. Tout ça, je le recadre bien. C'est pas, quand la Bible parle du méchant, c'est pas les païens qui sont au dehors, qui sont dans la perdition. Le méchant, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît ce qui est bien, mais qui fait le mal. Quand la Bible parle du méchant, c'est ça. C'est quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait une expérience avec Dieu, mais qui malgré tout fait le mal. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, et le résultat qui se passe, il ne repousse pas le mal. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie, quelqu'un qui ne donne pas à Dieu l'honneur qui lui revient, il ne pourra jamais être fort face à la tentation, fort face au péché. Il ne pourra pas repousser le mal. Il pourra le faire une fois peut-être, il pourra le faire deux fois. Mais à un moment donné, il y aura toujours un mal qui sera plus fort que lui. Parce que de toute façon, le péché est quelque chose qui est plus fort que nous. C'est dans notre nature, on est comme ça, on n'y peut rien. Mais on a un Seigneur qui nous donne des moyens. Trois moyens pour être fort, pour avoir cette capacité de résister, pour que notre vie soit un témoignage pour les gens qui nous entourent, que c'est possible encore aujourd'hui de marcher dans la sainteté. Oui, on a des choses qui ne vont pas, mais on a un Dieu qui est en train de nous transformer, de nous façonner pour enlever petit à petit les scories de notre vase. Et on doit venir dans sa présence avec simplicité, en lui disant « Seigneur, oui, je veux grandir. Oui, je veux aller plus loin. Oui, je veux que ta parole me façonne. » On va fermer les yeux.